With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vous êtes sur le point de suivre Jacques Joly, grand prêtre de la gastronomie, qui traîne courageusement ses amis cordon bleu chez Vincent Malone, grand nul en cuisine, afin qu'il partage avec lui les secrets de leur recette dominicale. Alors, crayon, aspirine.
Jacques Joly. Le plat du dimanche.
Bonjour Jacques.
Salut Vincent.
Mais vous n'êtes pas Christophe Saint-Agne ?
Ouais, c'est lui.
Bonjour.
Entrez, je vous en prie. Entrez. Non, Jacques, tu vas y avec nous aussi, non ?
Bah ouais, je suis un peu voilà.
D'accord, okay.
Bah,
bon,
quand il
bah,
y a Christophe, j'ai à manger.
Entrez,
moi.
Je vous en prie. Excusez-moi, c'est pas très propre par terre. Ça va aller ? Non, vous pouvez garder vos chaussures, Christophe. Tout va bien. Eh bien. Nous voilà dans la cuisine. Bonjour Christophe.
Bonjour, ça va bien?
On m'a dit, il y a quelqu'un qui va venir t'aider à faire un plat pour ton dimanche, mais on m'a pas dit que l'immense chef du Papillon allait venir me voir pour faire un plat du dimanche, quoi. Comment ça se fait que tu sois là? C'est Jacques qui t'a dit de venir ou t'es
mais
venu
oui,
parce que...
Mais oui, c'est Jacques qui m'a dit parce qu'il m'a dit que vous aviez des problèmes de cuisson en ce moment, que vous saviez pas ce qu'il fallait faire à manger, à qui, donc me voilà.
Mais et pendant ce temps-là, qui fait la cuisine chez Papillon?
Eh ben, en fait, moi, je m'inspire beaucoup de mes aînés parce que mes aînés, c'est quand même des mecs balèzes. Et il y a un grand chef qui s'appelle Paul Bocuse. Un jour, dans les années 70, il a ouvert un restaurant aux États-Unis et un journaliste lui tend un micro en lui disant, mais, monsieur Bocuse, qui va faire la cuisine lorsque vous ne serez pas chez vous? Et il regarde et lui dit, mais la même personne que quand je suis là. Et je crois qu'il a bien résumé la vie d'une cuisine.
Attends. Bocuse a répondu, la même personne que quand je suis là. Ça veut dire
qu'en fait, quand tu es chef d'un restaurant, tu es avant tout restaurateur et que tu es là pour t'assurer que l'ensemble de la prestation soit au niveau. Moi, chez Papillon, je reçois les gens, je leur ouvre la porte, je prends leur manteau, je les emmène à table, je prends la commande, je leur sers du vin, s'il y a besoin. Et s'il y a besoin également, je leur fais l'omelette au cèpe, mais... J'ai des cuisiniers avec moi dont le métier et dont l'emploi quotidien est de faire la cuisine. Moi, mon travail de restaurateur, c'est de chapeauter l'ensemble du restaurant.
Mais c'est toi qui crée la carte, c'est-à-dire
évidemment.
Que...
Je suis paumé, moi, dans mon plat du dimanche.
Mais c'est pas grave.
T'as appelé ça Papillon à cause des huîtres, hein? Papillon, enfin des machins Papillon.
J'ai appelé ça Papillon parce que je voulais un nom qui parle de la nature. Je voulais un nom qui soit facile à s'approprier. Je voulais un nom qui existe sans moi. Et puis il y avait Steve McQueen dans Papillon qui me plaisait bien aussi,
ah.
Qui avait la classe, quoi.
Oui. Il est très long ce film, mais il est pas mal.
Il est bien.
Il est long, bah, il est long comme une journée en prison, en fait.
Il est bien.
Non, mais il est long quand même.
Non, mais il est bien.
Moi, j'aime pas quand il jette les trucs avec les noix de coco dans la mer et qu'il se met dessus.
Ça, du Steve Hoffman, extraordinaire.
Ça commence à être un peu. Oh, il en fait trois.
Ah non, il joue fin.
Ils ont épuisé 600 000 rouleaux de scotch pour ses lunettes. Mais mec de la prod, il devait plus pouvoir avec ce film, quoi. Il dit, ah, ça va pour le scotch, c'est bon.
Non, mais attends, non. C'est extraordinaire, la septième vague, quoi.
Dimanche, j'ai 5 personnes à table, et comme tous les dimanches, c'est ma famille, et il faut que je les nourrisse.
Eh ben, en fait, là, ce que je vais vous proposer, c'est un plat qui est un espèce de fantasme. Je l'appelle, moi, le cochon noir de Bigorre en promenade à Utah Beach.
C'est un titre de film, déjà.
Attends. Cochon noir de Bigorre en promenade à Utah Beach. D'accord.
Je vous explique.
Beach, c'est comme la plage, c'est pas comme l'autre dont on parlait
au début. Non, on peut faire un peu comme on veut.
Non, mais je te le dis quand même.
Il y en a aussi des beaches à Utah Beach.
On sait jamais, je veux dire. Moi, Tu peux être un cochon. Bon, vas-y, on y va.
Quand j'ai démarré Papillon, je voulais absolument défendre les produits normands, puisque je suis normand. Je me disais, bon, c'est quand même plus sympa de parler de ce qu'on connaît. Et j'ai cherché absolument un cochon en Normandie, mais il n'y a pas de cochon en Normandie. Il n'y a que des mauvais cochons en Normandie. Le bon cochon en France, il est plutôt fait du côté des Pyrénées.
Ah oui.
Et en Auvergne.
Et en Auvergne. J'en achète aussi en Auvergne, bien sûr, il y en a des biens.
Chez toi.
Et du coup, j'étais vexé comme un pou de ne pas trouver de cochon normand. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, on va le cochon le noir de Bigorre, donc des Pyrénées, là, on va le faire venir en Normandie, on va le baptiser avec les produits normands. Donc on va imaginer qu'il arrive dans la Manche et qu'il va trouver à Créances.
Créances, tu vois où c'est? C'est très beau, Créances.
Mais pas du tout.
Mais Créances, c'est la base du Mont-Saint-Michel et la terre est sableuse, et pays de la carotte, La Bretagne légumière, ils appellent ça, mais en fait...
Créance, comme une créance.
Et qui va trouver à Créance des légumes qui ont poussé dans le sable de Créance, et qui va, sur la plage, trouver des algues, trouver des bulots, trouver des huîtres.
Ce qui n'est pas idiot, parce que les cochons, ça mange un peu de tout. Ça mange un peu des
cochons,
fruits de mer.
Ça mangerait tout. Ça pourrait manger des fruits de mer sur leur randonnée.
Ouais.
Et puis, je me suis aussi rappelé de l'agneau de Présalé. Et je me suis dit, évidemment, que si ça fonctionne avec l'agneau, qu'on peut cuisiner avec le côté marin, et on doit pouvoir le faire avec le cochon.
Donc là, les gars, accrochez-vous à vos écouteurs, parce qu'on n'est quand même pas dans « on râpe les carottes, on fait les machins ».
Non, c'est pas Bernard Ménez, on raconte la cuisine.
Non, on est quand même...
Le cochon, est-ce que c'est pas un espèce de truc super bizarre aujourd'hui, quoi?
En fait, j'ai été frustré du cochon. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé dans les palaces, et dans les palaces aujourd'hui, tu peux plus servir de cochon. Parce que un client sur deux est une femme, donc elle va pas vouloir de cochon.
Bah oui, c'est ça.
Et puis ensuite, comme tu veux vendre cher dans les palaces, parce qu'il faut, il faut faire un max de blé.
Donc pas de cochon dans les palaces, t'es frustré.
Et donc moi, quand je me mets à mon compte, le premier truc que je fais, c'est faire du cochon à gogo. C'est la viande la plus intelligente, le cochon. Puisque tu peux la travailler sous toutes les formes. Tu peux la cuire dans un liquide, tu peux la rôtir, tu peux la braiser. Et tu travailles l'animal entièrement de la tête à la queue, c'est magnifique, c'est un produit c'est une bête qui a été faite pour être bouffée, quoi, c'est magnifique.
Qu'est-ce qu'il me faut comme ingrédient pour faire ton plat?
Eh ben donc il faut des légumes racines, donc du pané, des carottes, des rutabaga, des navets, des choses comme ça.
Mmh.
Il faut un plat. Pour moi, la bonne cuisine du dimanche, c'est celle qui se fait dans un plat.
Un seul plat.
Pour faire tout.
Comme une cocotte, par exemple, c'est ça?
Soit une cocotte, soit un plat qui va au four.
Une sauteuse?
Ce qu'on appelle un plat sabot.
Ah oui, les plats sabots.
Ou une sauteuse. Mais si on doit commencer à avoir plusieurs casseroles et plusieurs préparations et machin, pour moi, c'est pas le dimanche, ça.
Un plat.
Ça, là, on a à l'usine, là. Ça sert à rien.
Tu vois, c'est le plat.
Le plat du dimanche. C'est la quintessence de l'émission.
Tu prends des légumes racines. Déjà, ça me fait peur. Si je vais chez mon épicier en bas, lui demander des légumes racines...
Ah, il va te sortir un livre, surtout.
Hein?
Non, mais c'est bon.
Pas compris.
Non, je crois qu'il prend sa racine, l'auteur.
Ah, d'accord.
C'est vraiment merdique. Des légumes racines, et quoi d'autre?
Et un bout de cochon.
Mais quel morceau?
Plutôt la poitrine, poitrine pas trop grasse.
Pas trop gras. Parce que c'est ça qui est bon dans la poitrine, quand même.
Oui, mais il faut un bon rapport. Je dirais que c'est, ça doit être au minimum 50-50. Si c'est plus de 50% de gras, on va pas faire plaisir à tout le monde autour de la table. Poitrine pas trop grasse.
Fraîche.
Où je trouve ce bout de cochon de Bigorre?
Alors, il y a pas mal d'endroits qui en font à Paris maintenant.
Et en France aussi, ou c'est qu'à Paris?
C'est dans toute la France. En fait, alors je vous explique rapidement Bigorre, parce que c'est assez remarquable ce qu'ils ont fait, ces gens-là. C'est que ils se sont rendus compte que la race, le noir de Bigorre, était en train de disparaître. Il y avait plus que très peu de femelles et très peu de mâles. Et en fait, ce sont des éleveurs qui se sont mis en communauté pour assurer la survivance de la race et pour ensuite assurer la production, la commercialisation. Donc vous êtes sûr, quand vous achetez un produit chez eux, que vous achetez un produit de qualité, qui a été nourri comme il faut, qui va pas vous rendre malade, et que ensuite ils ont un cahier des charges qui est assez strict. Ouais.
Ils ont un genre de site où on peut aller pour voir où ils distribuent, quoi?
Oui.
On va sur genre cochon de Bigorre?
Je pense que, ouais, noir de Bigorre. Ouais.
Noir de Bigorre. Quand tu dis moins de 50-50, ça veut dire que ça va être à 20% gras, quoi.
Alors, quand il va être cru, mais comme tu vas le cuire longtemps, le gras va fondre, donc on va perdre du gras.
Regarde, comme si j'étais parfaitement débile, je note le gras va fondre.
Et tu gardes la couenne ou
il faut surtout garder la couenne.
D'accord.
Il faut sortir la caisse à outils et prendre le cutter. Il faut changer la lame.
Ça, c'est super.
Parce que la dernière fois que t'as fait du papier peint, t'as laissé la lame qui est toute pourrie.
Ouais.
Donc tu changes la lame et tu viens quadriller la couenne.
Pour faire des, que ça fasse des.
Pour faire des beaux losanges.
Je ne vais pas être désagréable avec toi parce que je sais que tu as fait des études, mais je crois qu'on ne dit pas quadriller si c'est losange.
C'est vrai, c'est losanger.
Il faut losanger.
Losanger. Mais alors, du coup, parce que moi j'avais compris qu'on prenait des tranches, mais en fait tu prends un gros morceau.
Ah non, on prend un gros morceau.
Un morceau comme le petit salé, quoi.
Oui.
Ça fait combien de. Mais pas salé. En poids, le gros morceau.
Il faut compter 150 grammes par personne.
150 grammes.
Ouais, c'est pas la peine d'en faire trop.
Par personne.
C'est pas très cher.
Ça coûte rien, cochon. Ça doit coûter 10 euros le kilo, 12 euros.
Même celui-là.
Ouais, parce que là, on est dans la poitrine.
J'ai vu que les prix au papillon, là, c'est pas cher.
Non. Mais c'est, enfin, comment tu fais c'est pas cher et c'est déjà trop cher.
Comment tu fais pour gagner ta vie en faisant des plats si peu chers en,
eh ben, il faut...
en étant dans ce quartier qui doit être hyper cher.
Il faut faire du monde. C'est-à-dire que nous, on voit passer une centaine de clients par jour.
C'est un cuisinier d'élite, Christophe Sautain. On branle que dalle dans la cuisine, quand même. Ça fait trois heures qu'on
discute. Si, parce qu'on discute. Parce que un plat, tu vas voir, c'est super simple, je pense. Enfin, simple. Non, pas simple.
Très simple.
Je suis allé faire les courses, mais je reviens au milieu de mes courses parce que je me suis dit, et les fruits de mer.
Ouais, huîtres et bulots.
Voilà un garçon concis dans les mots. Il a oublié de me donner les fruits de mer. Quand je remonte en sueur avec mon paquet de courses, il me dit juste, huîtres et bulots.
Ah, c'est les cuisines.
Tu sais, je suis passé sous commis quand même. huîtres et bulots.
C'est à peu près ça.
Mais chef, quelle huître, quel bulot? Qu'est-ce que je prends, chef? Ouais, chef.
Les bonnes.
Ok, chef, compte sur moi, chef.
Non, mais il faut en parler à ton poissonnier. C'est lui qui sait ce qu'il faut manger.
On a des commerçants aujourd'hui qui savent.
Oui, bien sûr. Mais il faut retourner chez les commerçants. Il faut fuir les supermarchés.
D'accord. Donc, je vais voir mon poissonnier en bas de la rue Mouffetard, là, et je lui dis, il me faut des fruits de mer.
Ouais. Et puis, il faut lui dire, mais toi, lesquels tu manges, toi? Qu'est-ce que tu manges, toi? Et là, il va te dire, prends celle-là plutôt que celle-là.
Oui, d'accord. Est-ce que tu peux juste, chef, s'il te plaît, vaguement me dire quelle quantité je ramène de ce qu'il mange, le poissonnier?
Il faut au moins une huître par personne, voire deux. Mmh. Et puis, il faut il faut cinq bulots par personne, c'est bien. Il faut les prendre cuits, les bulots, c'est plus facile. Pas s'emmerder à cuire des bulots.
On ne s'emmerde pas à cuire des bulots. Et ben voilà, moi j'ai mes huîtres. Alors bon, elle me dit là des petites creuses, bon ça va, bon. Et j'ai cinq bulots, j'en ai pris un peu plus. J'ai pris une petite crevette, la grise qu'on peut manger pendant qu'on
discute. Les algues ?
Ça c'est bien. Ben quoi des algues ?
T'as pas pris des algues ?
Vous vous foutez de ma gueule, vous deux.
Mais non, mais attends, tu mets des algues ?
Mais quoi des algues ?
Il faut des algues.
Faut que j'aille demander à mon poissonnier ce qu'il bouffe comme algues ?
Non, bah ben non, parce qu'il en bouffe pas, ça c'est sûr.
Alors qu'est-ce que je lui demande maintenant, Christophe ? Parce que tu commences vraiment à ma.
Des algues qui se mangent.
C'est genre wakame,
voilà,
des trucs comme
ça. Wakame, dulcé, laitue de mer.
Chez les Japonais.
À Tokyo, il y en a beaucoup.
Chez les Japonais.
Où je vais trouver ça? Chez les Japonais?
Oui, les Japonais.
Non, là où il y en a beaucoup, maintenant, c'est dans les magasins bio.
Ah oui,
ils vendent des
vrai.
Graines.
D'accord. Dans un magasin bio ou à mon magasin japonais de la place
Maubert. Ah ouais, la place Maubert, il y a.
D'accord. Et là, je bande des algues combien, alors? Pardon, excusez-moi, chef.
Bon, là, il faut,
Il va faire 6 fois l'aller-retour, lui. Non. C'est épouvantable.
Il faut 30 grammes par personne.
30 grammes par
personne. Mais t'achètes des algues sèches.
Ouais, t'achètes en sachet sèche.
Ah, d'algues sèches.
C'est un peu comme les morilles, quoi, tu vois.
J'ai des algues sèches, 30 grammes par personne. J'ai des huîtres et des bulots. Ensuite, j'ai pris un bon bout, 150 grammes par personne, de cochon noir, de bigorre, de la poitrine pas trop grasse. Hein. Qu'est-ce que je fais avec tout ça?
Maintenant, on bosse, là.
Alors, on bosse. Donc,
ça serait bien qu'on bosse, oui.
On sort le cutter.
Oh non, je peux pas. Attends, faut que je boive un coup, là. Franchement, c'est raide, quand même, non?
Ah, mais je t'avais dit, attends,
c'est... C'est ça, voilà.
Et là, il est gentil, t'imagines, si tu merdes le truc.
Qu'est-ce que tu fais, là? Tu prends le cutter, tu demandes.
Bon, allez, le cochon,
non,
là.
Non, mais attends,
cochon.
Mais moi, je me dépêche. Alors, j'ai un cutter, j'ai changé la lame, parce qu'effectivement, il ne l'a pas fait, cher Christophe Saint-Agne, de papier peint, parce que comme tu peux voir chez moi, il n'y a pas de papier peint, vu que je déteste le papier peint. Et donc, je coupe là, en losange, je losangifie.
Tu coupes pas,
ma
tu stries.
Oui, c'est ça, je la strie. Je fais des traits d'environ un millimètre de profondeur.
Non, il faut losangifier.
Losangifier, oui, pardon.
Je losangifie.
Donc je strie dans un sens, puis dans l'autre.
Oui, très bien.
Ensuite, je sale.
Est-ce que je peux pousser des cris stridents en même temps? Ça peut être sympa.
Des cris de cochon.
Des cris de cochon. Voilà. Hein?
Alors, voilà, on a strié. Putain, ça avance pas notre truc. Je t'écoute, pardon, Christophe.
Donc, le four très chaud.
Sur 8?
À fond.
À fond. Four à fond.
250 degrés.
Ah ouais.
Faut saler à peu près à 10 grammes pour un kilo de viande. Si t'as acheté un kilo, tu mets 10 grammes de sel.
Un kilo égale 10 grammes. Que je mets sur la viande?
Sur la viande, sur la couenne.
Sur la couenne.
Tu vois, sur la couenne et sur la viande. Tu badigeonnes un peu.
D'accord.
Tu mets dans ton fameux plat sabot.
Oui.
Ou dans ta cocotte. Et tu mets au four une vingtaine de minutes.
Couvert?
Surtout pas.
Que la viande, hein.
Que la viande.
Sans rien mettre dans le plat.
Rien.
Et tu mets pas le couvercle. Tu mets pas le couvercle.
Mais c'est pas fait de faire le geste. Mais tu comprends que c'est un couvercle. Tu mets pas le couvercle. Quand il est là, on dirait qu'il transporte une marmite. Non, mais laisse tomber. Tu vois bien qu'il met rien dessus. Puis il agace pas parce qu'on va mettre deux heures. Vas-y.
20 minutes, on met ça 20 minutes à four à dents.
Tu fais ça pour la couenne, c'est-à-dire que la couenne qui est bonne, c'est la couenne qui est croustillante et qui va souffler.
Ah, tu l'as mis côté couenne, au fond?
Non.
Au-dessus?
Au-dessus.
Ah non, mais j'avais pas compris, je croyais que tu l'as fait.
Tu sais, ça va faire comme font les Chinois.
Excuse-nous de pas avoir fait le tour du monde avec Ducasse pour voir comment font les Chinois.
Non, mais tu vas dans le 13e, tu verras très bien.
J'ai pas ouvert 500 restaurants à Canton.
Mais il a été en Chine, en plus. Il a été en Chine, Vincent, donc
il connaît ça par cœur. Ne fais pas le bébête.
Oh putain, ça va être la foire au papillon, je peux vous le dire. Bon alors.
Donc une vingtaine de minutes comme ça.
Ouais.
Et là, la couenne va souffler.
Ouais.
Okay. Après, tu retires ton plat, tu épluches tes légumes pendant ce temps-là.
Non, mais t'as vu comment il est? T'as épluché tes légumes. Bah,
évidemment.
On s'en fout pas une.
On épluche les légumes, elle économe tout ça. Et qu'est-ce qu'on en fait?
S'ils sont gros, tu les coupes en deux dans la longueur.
Dans la longueur.
Oui, si c'est des panais.
Voilà. Oui. Et ensuite, tu vas ressortir ta cocotte au bout de 20 minutes. Mmh. Tu vas ajouter tes légumes.
Dans la cocotte.
Dans la cocotte.
Toujours.
Et tu vas remettre au four.
Sans rien de plus.
Rien, puisque le cochon va avoir rendu du gras, donc tu auras du gras pour cuire. Mmh. Tu as déjà mis du sel, donc tout va bien. Mmh. Et tu vas remettre au four. Et là, on part pour une heure et demie. Hein.
Ah oui, à fond.
Non, on baisse.
Ah oui.
On baisse.
On baisse le thermostat. Oui. Et là, on vient à 120 degrés.
C'est-à-dire...
Donc c'est thermostat 4 à peu près.
Donc on a fait cuire 20 minutes notre morceau de porc qu'on n'a rien fait du tout, on l'a même pas touché, que dalle, on a juste griffé, enfin strié la peau en losange. Si vous voulez faire un petit cœur, mais faites un petit cœur les amis. Pour la Saint-Valentin, un porc avec un petit cœur, madame est contente.
Donc faut s'y mettre le dimanche quand même plutôt vers 9h du mat qu'autre chose quoi, hein, quand même. Est-ce qu'on peut le faire la veille pour le lendemain?
Oui.
Donc là, ce que je fais aujourd'hui, je peux le manger demain?
Oui.
Ça, c'est super. Très bien. Merci beaucoup, Christophe.
Faut surtout pas le mettre au frigo. Alors ça, il y a un truc. Hein. On utilise trop le frigo aujourd'hui.
La merde, il m'a toujours dit qu'il fallait toujours tout mettre au frigo.
Surtout pas.
Pas moi.
David, il dit pas. Surtout pas. Il fait, surtout pas. C'est son passage en Chine qui a fait ça. C'est, les Chinois, ils vont t'engueuler. En tout cas, t'arrives. Surtout pas. Et pourquoi?
Oui, pourquoi?
De Saint-Aïe.
Pourquoi? Parce que, en fait, il y a énormément de produits, si tu les descends vraiment en température, ça va changer leur et leur goût. C'est-à-dire qu'ils vont absorber le goût des autres aliments du frigo et ça va changer la texture. Donc le gras va devenir très dur, ça va pas être bon.
Mais attends, mais...
Donc tout ce qui est cuit, cuisiné, tout ce que tu as fait, le poulet que tu as cuit,
oui.
Si tu veux le garder pour le lendemain, tu le laisses dans ton four éteint, tu le mets pas au frigo.
Ah ouais?
Ben oui.
Jacques Joly m'affirme, enfin m'a fait toute une théorie sur comment on faisait baisser à température rapidement les plats cuisinés en les mettant dans de l'eau froide.
Ouais, parce
que
les bouillons et tout ça.
Pour les mettre après dans un frigo, pour ça, pour éviter les bactéries et tous ces trucs-là. Alors.
Ouais, mais ça c'est des inventions des industriels, ça.
Ah, ben tu vois, il était temps que t'arrives dans ma maison parce non, que mais là,
en fait,
l'autre.
En
il
fait, me... je vais vous expliquer un truc.
Ah.
Très simple, c'est que quand tu as fait bouillir ou quand tu as amené à plus de 100 degrés. Tu as tué toutes les bactéries. Donc une fois que ton produit, une fois que tu as tué toutes les bactéries, tu as peu de risque après que sur
même
une
si tu le laisses à température ambiante,
ouais, mais,
ça, après, ça si va pas refabriquer des trucs.
Si tu habites dans un endroit très chaud et humide et que oui là c'est embêtant.
D'accord.
On a fait cuire notre porc pendant 20 minutes. On a fait cuire nos légumes pendant une heure et demie. On a discuté comme des oufs avec Christophe Saint-Aigne d'un tas de trucs hyper passionnants que je vous raconterai dans un livre qui s'appelle « Ma rencontre avec Saint-Aigne ». Et maintenant, on fait quoi?
C'est presque fini.
Comment ça, c'est presque fini?
Presque fini.
Les
donc
fruits
on va...
de mer et tout ça, les
alors,
algues.
On va sortir le plat du four.
Ça, j'y arrive.
On va enlever le cochon. On va enlever les légumes qu'on va mettre dans un beau plat de...
Service.
En faïence. Voilà, le plat de service qu'on a...
On sort d'abord le porc qu'on met dans un plat?
Ouais,
on le réserve.
Alors, on va le découper en tranches. Mmh. On va le mettre sur la planche, on va le couper en tranches.
En tranches plutôt fines, c'est que, comment tu fais?
Un centimètre et demi.
Prenez un couteau qui coupe bien quand même, parce que la couenne, même gonflée, il faut quand même la couper.
Ce qui est pas mal, c'est de prendre un couteau scie. C'est pratique, ouais.
Comme un couteau à pain.
Voilà.
C'est ça, ouais.
Et alors, après, je fais quoi?
Et après, tu vas dégraisser la cocole, c'est-à-dire que tu vas enlever du gras, parce que ça a rendu du gras quand même. Mmh. Et ce gras, tu vas le garder pour faire ta cuisine dans les jours qui viennent. Tu vas pas le jeter.
D'accord.
Comme ça, quand demain tu vas faire des pommes de terre sautées, clac, tu vas mettre ton gras, qui sera très très bon.
Quand Christophe parle de moins en moins fort comme ça, c'est qu'il aimerait bien que je sois convaincu de ce qu'il dit et que j'arrête de lui faire perdre son temps.
Tu ajoutes dans la cocotte, mais surtout sans refaire chauffer, les huîtres que tu as évidemment décoquillées.
Mais
tu vas pas mettre les huîtres avec la coquille.
Mais, non.
Mais tu vides l'eau ou tu...
Tu mets tout.
Non, mais je... moi, quand après, quand tu ouvres l'huître, tu jettes la première
eau. Ouais, ça, je sais pas trop. Je crois que c'est plus une croyance.
C'est vrai, populaire aussi. Du
J'ai sorti mes légumes que je réserve pour l'instant. Je sais pas ce que j'en fais. Qu'est-ce que
tu
j'en
les
fais?
Mets autour du cochon.
Et j'ai pris mes fruits de mer,
Les huîtres.
Mes huîtres décoquillées et mes bulots.
Et mes bulots décoquillés.
Oui, que j'ai sorti avec mon truc à bulots en ferraille, là. Et je mets ça tout entier. Dans le plat,
mais dans la cocotte.
Une cocotte à peu près sèche. Enfin, mais quand même qui a un fond un peu, enfin, un gras.
Ouais, bien sûr, il faut en garder un petit peu, hein.
Un petit peu. Mais on met pas ça à frire dans le gras, quoi.
Non.
Soit clair.
Et puis on chauffe plus, là.
On chauffe plus.
On a éteint le four, on a éteint les feux. Et on met également les algues.
Les algues. Qu'est-ce qu'on a fait avec les algues avant?
On les a juste réhydratées.
C'est-à-dire?
On les a fait tremper dans un saladier d'eau pendant un quart d'heure.
Très, très bien. Je touille juste avec ma cuillère en bois l'ensemble de ces...
Voilà, on remue un petit peu de façon à bien décoller tous les sucs de cuisson du fond de la cocotte.
Et ça fait un espèce de globibulga, algues, huîtres, bulots.
Ouais, c'est ça.
Et ça, je reprends ça à la cuillère et je redispose ça comment alors après dans le plat pour que ce soit joli?
Pour être sûr, c'est que moi, je le mettrais dans un bol à côté.
Dans un bol à côté.
Parce que tu fais pas le service à l'assiette. Ouais.
Et puis les enfants, ils vont faire la tête, ils vont dire, je mange pas d'algues.
On prend un bol à côté dans lequel on met cet assemblage.
Exactement.
Algues sèches, desséchées, enfin sèches, réhydratées, des huîtres. Et les bulots.
Oui, ça fonctionne comme un condiment marin.
Exactement.
C'est comme des spaghettis, sauf que c'est des algues. Bolognaise, voilà. Sauf que c'est pas de la viande, mais
voilà.
Des huîtres.
Voilà. Ben, je vais vous laisser.
Ah. Un petit peu.
Ben, c'est très beau.
Voilà.
C'est très beau.
Et c'est super bon.
Et c'est bon. Ben, on va goûter ça tout de suite. Mais avant, c'est un plat que tu sers au papillon, ça?
Oui, c'est un plat que je fais depuis l'ouverture et qui est toujours à la carte. On l'enlève jamais.
Explique-moi un truc quand même. Juste avant que tu t'en ailles, parce que je sais que t'as beaucoup de boulot. Comment tu fais pour un plat qui cuit en une heure et demie, tout ça, pour que je l'aie?
Ben parce qu'on décompose en restaurant.
Comment
c'est-à-dire
tu fais?
Eh ben le cochon, on le cuit tous les jours. On cuit tous les jours une poitrine de cochon.
Donc en fait, il y en a.
Au moment où tu arrives, il y en a.
Parce que tu sais que les gens vont en demander.
Mais il y a un moment où il n'y en a plus.
Et là, tu dis, oh ben il n'y en a plus.
Ouais, mais le client lui dit, mais comment monsieur, mais vous osez me dire qu'il n'y en a plus?
Je suis venu exprès.
Parce que en fait, un client dans un restaurant, il pense que puisqu'il a commandé, on doit lui servir.
Ah oui, c'est... non mais oui, tu préviens au moment de la commande, non? Tu dis,
oui,
j'en
mais
ai
il y
plus.
En a, il y a des gens qui n'acceptent pas.
Ah.
De toute façon, il faut, je crois, se méfier du restaurant où il y a tout le temps.
Ouais.
Oui.
Là, c'est qu'il y a quelque
chose. Il y a un loup.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'on boit avec ça là? Parce que il fait soif quand même.
Ah oui, t'as une bonne cave.
Ah ouais.
Ah ouais, il a un sommelier d'enfer.
Moi, j'ai un sommelier.
Et t'es vin? T'es un peu vin? Toi, tu bois du vin?
Moi, je bois beaucoup de vin, mais je ne sais pas ce que je bois. C'est-à-dire que j'ai une mémoire de moineau.
Ouais, ouais, pareil.
Donc je bois un truc, je dis putain, c'est super bon, faut absolument que je retienne. Mmh. 20 secondes après, j'ai oublié.
Non, mais le vin, en plus, il a un sommelier d'enfer qui fait du vin nature, du vin bio et tout ça. C'est extraordinaire, la cave du papillon. Mais qu'est-ce que tu bois? On boit du blanc, du rouge avec ça?
Avec ce plat-là, on peut boire du blanc, du rouge. On peut même boire de la bière, hein, si on est un peu aventureux.
Ah ouais?
Bon, eh ben, nous étions avec Cri-Cri, Saint-Agne. On peut l'appeler comme
je
ça,
crois
désormais.
Que la dernière fois.
On n'est pas comme cochon,
maintenant,
c'est Cri-Cri Saint-Agne. Oui, qui nous a fait son port de Bigorre. C'était hyper cool, avec des algues et puis des huîtres.
Donc, nous étions avec Christophe Saint-Agne. On est tous très contents. On va aller goûter ça. Allez au papillon, goûtez vous-même, si vous avez la flemmasse, comme moi, par exemple. Parce que franchement, quand vous verrez les prix, vous verrez que ça vaut peut-être même pas le coup de descendre en bas, quoi. Franchement, vous avez mieux fait de vous jeter dans un bus et d'aller directement là-bas. C'est quoi l'adresse d'ailleurs? C'est
8 rue Meissonnier.
8 rue Meissonnier.
17e arrondissement, métro Wagram.
Voilà, Wagram. Normalement, c'est les gens un peu friqués qui sont là-bas, mais là, il y a un peu de tout.
Non.
Hein? Si.
Non.
Bah, le 17e, bon, pardon.
Moins que le 5e, Maubert, Mouffetard et tout ça, quand même.
Ah non, c'est plus que Maubert. Non, non. Bon, enfin, on va pas discuter de ça. Merci beaucoup, Christophe.
Sérieusement. Merci.
La
gâteau ouais,
merci. Merci. On va évidemment raccourcir ce podcast qui doit durer 1h30 comme d'habitude.
Oui, mais il y a plein de choses intéressantes.
Chose... Oui, mais ça, c'est pour moi. Pour quelque chose d'audible. Et embrasse bien ta femme qui
oui.
le mérite.
Passez de bonnes fêtes tous les
et
deux.
Émile, c'est ça.
Voilà. Émile.
Et ouais. Émile, qui le mérite également.
Et l'autre, il s'appelle comment ?
Paul.
Paul. Paul et Émile. Et eh ben alors.
Ouais. Il y en a un troisième, il s'appellera.
Victor. Voilà. Non, on était obligés. Allez, salut, salut, enfants.
Salut.
Salut
tout le monde.
Salut.
C'était une émission du Poste Général.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.